affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Amis, bonjour et bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Sansonetti, membre de l'Académie des sciences. Ce médecin a été chercheur à l'Institut Pasteur. Pendant 12 ans, il a également occupé la chaire microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France. Et lors de sa leçon de clôture en 2020, il a rendu un vibrant hommage aux microbes. Un véritable condensé de ses plus intimes convictions, de ses observations aussi. Ces derniers mois, Philippe Sansonetti est beaucoup intervenu dans les médias au sujet de la pandémie de Covid-19. Mais nous pensions qu'il était utile de quitter le virus pour revenir à ses premiers amours. Amour, le mot n'est pas trop fort puisqu'il a intitulé cette dernière leçon « Tu aimeras tes microbes comme toi-même ». Bonjour Philippe Sansonetti.
Bonjour.
Alors d'où vous vient cet amour assez étonnant pour les microbes ?
Au fond, ça a commencé tout de même par sans vouloir caricaturer, par une certaine haine des microbes, parce que j'ai commencé ma carrière médicale dans les maladies infectieuses. Dans la médecine interne, et je suis venu aux maladies infectieuses à cause des microbes pathogènes. Je le dis souvent, c'était au début des années 70, on commençait à voir finalement émerger cette médecine ultra-moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenue la routine, en particulier les greffes d'organes, les traitements des cancers, des leucémies, et donc des patients qui devenaient très vite immunodéprimés. Et je voyais des travaux par l'équipe médicale, dont je faisais partie à l'époque comme jeune externe, puis comme interne, gâchés, si je puis dire, en quelques heures, en quelques jours, éventuellement, par un processus infectieux, ce qu'on appelle les infections opportunistes, avec éventuellement à la clé le décès des patients. Et ça m'avait paru à la fois injuste pour tous ces personnels, médecins, infirmières qui s'occupaient de ces patients avec autant d'attention, et puis pour finalement l'investissement que la société faisait dans le développement de cette médecine nouvelle, au fond, et cette gâchis réalisé à cause de ces infections, de ces agents infectieux. Donc ma vie, elle a plutôt commencé du côté des antimicrobes.
C'était vos ennemis.
C'était mes ennemis. Et puis en plus, très rapidement, commencé à monter le phénomène de résistance aux antibiotiques, le fait qu'on avait du mal à traiter déjà dans les années 70, puis 80, certaines infections. Donc tout ça ne rendait pas les microbes très très sympathiques. Et puis j'ai connu le sida, hein. J'étais chef de clinique quand le sida est arrivé en Europe. On a pris plein fouet. Voilà, donc mes expériences initiales ne me portaient pas à la sympathie par le monde des microbes. En fait, cette sympathie, elle est venue en travaillant sur le sujet, c'est-à-dire au niveau de la recherche. J'ai commencé, ça a été le fond de ma carrière, à travailler sur la génétique, sur les mécanismes de pathogénicité, les mécanismes de virulence des microbes pathogènes. Est-ce qu'on peut comprendre les mécanismes de symbiose ? Comment se fait ce mutualisme, en fait, entre un hôte humain ou animal, en réalité, et un microbe commensal, en tube digestif, sur la peau, dans la bouche ou dans le vagin. Tout ça sont des écosystèmes, si on peut dire, tout à fait passionnants, qui peuvent d'ailleurs être perturbés par un microbe pathogène. Mais inversement, ces microbes commensaux nous en protègent. Donc j'ai commencé j'avais d'ailleurs écrit une revue à l'époque qui s'appelait « Guerre et paix aux surfaces muqueuses », une espèce de testament tolstoïen sur les microbes. Mais donc cette idée des bons microbes et de ce qu'on leur doit sur le plan médical et éventuellement plus largement au niveau des différents écosystèmes de la nature, il est clair qu'elle a un peu était le fil rouge de mes cours au Collège de France à partir de 2008, qui ont alterné effectivement entre la guerre et la paix.
Alors, nous allons revenir sur cette question tout à l'heure, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous définir ce que c'est qu'un microbe ?
Ah oui, effectivement, on revient au début, là, j'aurais peut-être pu le dire plus tôt. Ben, d'abord, il faut s'entendre sur les termes, parce que microbe, très souvent, on entend bactéries, on n'entend pas nécessairement virus. On n'entend pas nécessairement champignons monocellulaires, mais globalement, moi, quand je dis microbes, je considère un petit peu tous ces agents, soit commensaux, soit infectieux, qui sont en interaction. Mais un microbe, au sens d'une bactérie, par exemple, qui est celui sur lequel j'ai beaucoup développé là, dans cette leçon de clôture, c'est un organisme monocellulaire, c'est une seule cellule, qui a son autonomie de vie, c'est-à-dire qu'elle a son propre génome, elle a ses propres systèmes d'expression de gènes à partir de ses expressions de gènes, l'expression de ses protéines, les systèmes d'assemblage de ces éléments, de ces structures protéiques, lipidiques, éventuellement sucres. Donc ce microbe, sous réserve d'avoir une nourriture suffisante, est tout à fait capable de vivre et de se multiplier, ce qui est au fond sa raison d'être, si on peut dire. Alors là où, effectivement, c'est un petit peu difficile de classer les virus dans cette catégorie, c'est que ces virus sont dans une logique totalement différente, ce sont des vrais parasites. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se multiplier, de se répliquer, comme on dit, s'ils n'ont pas été incorporés par une cellule humaine ou animale, ou de plantes, d'ailleurs, puisqu'il y a des virus de plantes, ou une bactérie, puisqu'il y a des virus de bactéries, les bactériophages. Donc ils sont dépendants d'un hôte pour véritablement se multiplier, car ils sont incapables de faire deux virus à partir d'un virus s'ils ne sont pas à l'intérieur d'une cellule qui les y aide avec sa machinerie.
Et ces microbes dont vous parlez existent finalement depuis très longtemps. Vous dites que ce sont dans les premiers êtres vivants à être apparus sur Terre.
Oui, on considère généralement que les bactéries, les microbes, hein, sont apparues aux alentours de 3 milliards d'années, ce qui est assez loin, et ont été en tout cas les premiers êtres vivants sur notre planète. Et lorsqu'on parle de la vie sur Mars ou l'exobiologie, on pense aux petits hommes verts, mais ce à quoi pensent les scientifiques, ce à quoi on pense, ce sont les microbes. C'est-à-dire quel type de bactéries, avec quel type de génome, avec quel mécanisme enzymatique ont pu survivre aux conditions extrêmes qui règnent sur des planètes comme la planète Mars, par exemple. Et ces conditions permettent-elles, à la limite, ces mécanismes de vie aussi élémentaires ? Donc voilà, on est sur un monde qui nous a précédés de loin, puisque les cellules eucaryotes, elles ont émergé des archébactéries, qui est un autre phylum, et se sont organisées en éléments multicellulaires, probablement il y a 800 millions d'années, disons 1 milliard pour arrondir d'années. Donc les bactéries ont été présentes avant nous par 2 milliards d'années. Et c'est important parce que ça veut dire, au fond, que en tant que monde eucaryote multicellulaire qui se développe sous un certain nombre de formes, disons les formes différentes de la vie, il a fallu d'abord et avant tout qu'on s'adapte en matière d'environnement à l'environnement microbien. Cette interaction, il faut la lire effectivement dans l'évolution ou dans la coévolution. Et c'est un fil assez intéressant à dénouer parce que ça peut aider aussi à planifier un certain nombre d'expériences. Je dis toujours à mes étudiants, je suis pas le seul, hein, ça a déjà été dit par Dobzhansky, c'est que rien en biologie ne se fait autre qu'à la lumière de l'évolution. Et ça, c'est cet aspect darwinien des choses est très très important, très important. Donc on s'est développé en interaction avec les microbes. Les microbes nous aident même à respirer. Hein. Les mitochondries, ce sont des bactéries, initialement, qui ont été incorporées très probablement dans des archébactéries et qui nous ont permis de sortir, pas nous, mais nos grands antécédents, de sortir du monde qu'on appelle anaérobique, c'est-à-dire le monde sans oxygène, qui était la planète à ce moment-là. Mais dès que l'oxygène est apparu sur la planète, ce qui nous paraît comme une molécule tout à fait essentielle à la vie était en fait une molécule extrêmement toxique pour ce monde anaérobie. Et c'est grâce à des bactéries qui pouvaient vivre en aérobiose, en présence d'oxygène, qu'on a monté, si je puis dire, cette symbiose parfaite qui est la mitochondrie chez les cellules humaines et le chloroplaste chez les cellules de plantes. Donc ça, c'est des moments, je dirais, presque émouvants de la coévolution, puisqu'on ne vit que par essence, grâce à une symbiose bactérienne stabilisée et permanente. Alors après, au fil de l'évolution, on s'est organisé avec ces microbes. Et au fond, c'est vrai que le problème d'une vie en l'absence de microbes est quelque part un concept un petit peu absurde, parce qu'il est quasiment inenvisageable, en tout cas dans la nature. La question qu'on se pose depuis maintenant un siècle, et plus précisément depuis quelques décennies maintenant, c'est au fond jusqu'à quel point va cette symbiose. Est-ce qu'on vit simplement ensemble, mais au fond certains degrés d'ignorance, ou est-ce que nous faisons quelque chose en tant qu'hôte eucaryote, en tant qu'homme ou animal à ces microbes, quoi bénéficient-ils, et que nous font-ils à nous, non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le développement. Et ça, ça devient un des sujets extrêmement passionnants à l'heure actuelle. Donc jusqu'à où va cette symbiose dans nos interactions avec le monde microbien, c'est ça qui devient absolument passionnant. Alors juste un chiffre quand même que je cite dans ce livre, c'est que les bactéries représentent 50% de la biomasse terrestre. La moitié de la biomasse terrestre sont des microbes. Et 90-95% de la biodiversité, probablement de plus en plus, parce que malheureusement, la biodiversité animale et végétale a tendance à diminuer. Donc le ratio va encore s'accentuer. Et une des questions, effectivement, pour l'avenir, c'est quid de la biodiversité microbienne et de sa stabilité, ou au contraire, de son altération, de sa résilience. Ça, sont des questions qui doivent maintenant entrer dans le logiciel écologique.
Et vous parlez des chercheurs qui travaillent sur les microbes. Quand a-t-on commencé à découvrir leur existence de ce monde minuscule que nous côtoyons ?
Alors, bon, il y a probablement plusieurs personnes qui ont vu des choses. J'aurais bien aimé être dans un petit coin pour voir Anthony von Leeuwenhoek en
microscope.
1674, vous vous rendez compte ? Il y a plus de 3 siècles... avec son petit microscope à lumière directe. Il faut voir les photos, il faut se précipiter dans les livres et regarder la photo de ce microscope. Et cette petite lentille qui lui permettait de grossir par 50, entre 50 et 200 fois, c'est-à-dire juste ce qu'il fallait pour voir des microbes, et mettre cette suspension de prélèvement de sa gencive, de surface de ses dents, de biofilm dentaire en fait, et voir tous ces petits animalicules qui flottaient là-dedans, je pense que ça a été un grand moment d'émotion, d'autant que certains bougeaient, il les avait dessinés d'ailleurs, et pour lui, à l'époque, c'était... C'était un petit peu à côté du cogito ergo sum de Descartes, le moveo ergo sum, c'est-à-dire je bouge donc je suis. Et pour lui, ces organismes étaient vivants parce que certains bougeaient. Alors, les autres ne bougeaient pas, peut-être ils étaient en train de dormir, ils ne savaient pas très bien ce qui se passait. Mais... Et ce qui est drôle, en fait, encore une fois, un grand moment. Il doit y avoir des moments comme ça en science qui sont... Enfin, il y a des moments qui sont exceptionnels, mais celui-là devrait en être un. C'était au fond la découverte que dans le monde macroscopique, à l'intérieur, caché dans le monde macroscopique, il y avait un monde microscopique, et philosophiquement aussi. C'était passionnant. À quoi ça servait ? Est-ce que ça avait un sens ? Mais ce qui est bizarre, c'est que il a vraiment fallu attendre 2 siècles, en gros. C'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle... Pasteur, Koch, enfin inutile de citer tous ces noms glorieux, pour mettre vraiment la microbiologie sur le devant de la scène. Entre les deux, c'était plus une activité de salon, c'est-à-dire que les gens se réunissaient dans la haute société, il y avait un microscope plus ou moins élaboré sur la table, et on regardait des échantillons et on regardait des animalicules, mais au fond, on n'avait pas l'impression... L'étincelle n'était pas arrivée. L'étincelle, elle est venue, bien entendu, de tout ce raisonnement du 19e siècle sur la cause des maladies. Alors quand on disait la cause des maladies au 19e siècle, c'était la cause des maladies infectieuses, parce que c'était ça, les maladies. Et donc de là a émergé effectivement la fonction des microbes, fonction pathogène, l'image négative, bien entendu, d'emblée. On s'est acharné sur les microbes à partir de la fin du 19e siècle. On a tout inventé pour essayer de s'en débarrasser. On a inventé les vaccins, on a inventé les antibiotiques, on a inventé l'hygiène. C'était vraiment le haro sur les microbes. La guerre aux microbes, c'était la guerre du roman. Et il a fallu que les choses sédimentent un petit peu, que la science aussi reprenne ses esprits, si on peut dire, pour commencer à observer. Mais beaucoup de... C'est intéressant parce que j'ai relu pas mal de littérature autour de ça, française, allemande. La contribution de microbiologistes allemands dans toute cette période est phénoménale. Mais souvent des médecins qui disaient, par exemple, des enfants, diarrhée de l'enfant. Alors bien sûr, on avait observé qu'il y avait déjà des bactéries qu'on pouvait considérer comme pathogènes, mais généralement, en même temps, qu'on cultivait autre chose. Et ces autres microbes, voilà, c'était quoi? À quoi ça servait? Est-ce que ça avait aussi une fonction? Si c'était pas pathogène, qu'est-ce que ça pouvait faire? Donc, ces questions, elles étaient déjà posées. Pasteur les posait en se demandant s'il pouvait y avoir une vie sans microbes.
C'était un de ses rêves d'expérience qu'il n'a pas pu réaliser.
Oui, je pense que si peut-être on peut faire un seul reproche à Pasteur, c'est que... Il faisait beaucoup trop de choses. Sans doute, sur certains sujets, et malheureusement, il n'a pas pu de lui-même aller jusqu'au bout des choses, mais il avait des intuitions absolument fulgurantes. Peut-être parce que, justement, sa vision de la microbiologie ne venait pas nécessairement de la médecine, mais elle venait on dirait, l'environnement aujourd'hui, en tout cas, de tout ce qui était processus de fermentation. Il avait une vision beaucoup plus théorique. Il était chimiste, il était structuraliste de la microbiologie. Donc peut-être il n'avait pas ce biais, si je puis dire, cognitif par rapport à la microbiologie qui était très influencée par la pathogénicité, même s'il s'est mis rapidement, parce que c'était, une fois réalisé que c'était les microbes qui causaient les maladies, difficile d'imaginer qu'il ne fasse pas, mais oui, donc, et il n'a probablement pas trouvé dans tous ses brillants disciples des gens qui véritablement voulaient s'investir dans l'étude des microbes non pathogènes, des commensaux. Et il a fallu attendre quelques années, en Allemagne en particulier, pour que commencent à se faire les premières expériences qu'on appelle d'axénie, c'est-à-dire d'élever des animaux après césarienne en conditions sans microbes, dans des enceintes sans microbes, filtrées, et puis les faire se reproduire de façon à avoir des lignées stables d'animaux sans germes, et poser la question fondamentale que posait Pasteur, c'est « peut-il y avoir une vie sans microbes ?» La réponse a été rapidement « oui ».
Oui, mais...
C'est possible, voilà. Oui, mais, trois points de suspension.
Et alors justement, ce « mais », qu'est-ce que ça donne une vie sans microbes? Est-ce que c'est le rêve ou est-ce que cela vire au cauchemar?
Oui, il faut se poser sans doute la question comme ça. Disons que ça a été un rêve et une utopie même d'un monde sans microbes, d'un homme sans microbes, justement, parce que au fond, la vision des microbes était très marquée par les microbes pathogènes. Mais même si ça n'a pas été dit très fortement à ce moment-là, parce que au fond, l'idée au début était très théorique, c'était est-ce que la vie eucaryote, est-ce que la vie des mammifères est possible sans microbes? Et donc la réponse était oui. On n'est pas allé beaucoup plus loin, parce que c'était difficile d'aller beaucoup plus loin et de poser des questions plus précises sur mais cette vie sans microbes, à quoi elle correspond? Est-ce que c'est une vie, au fond, identique à une vie avec microbes, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de plus ou un certain nombre de moins? Et on a réalisé au fil des années qu'effectivement, il y avait beaucoup de moins. C'est-à-dire que les animaux élevés sans microbes étaient plus petits, leurs organes étaient plus petits, leur système immunitaire mal développé, pas stimulé par tous les microbes contre lesquels ils se développent. Donc on peut imaginer que si on sort une petite souris sans germes, axénique, comme on dit, de ces boîtes axéniques, elle va pas dépasser le coin de la rue et va mourir d'infection fulminante parce qu'elle n'aura pas le temps, même si elle acquiert des microbes, de se réadapter. Donc la vie sans microbes, c'est une vie misérable. Et on peut faire exactement la même, le parallèle avec la vie végétale, par exemple. Une vie végétale sans microbes sera aussi une vie absolument misérable, dans la mesure où les microbes, en particulier, fixent l'azote et permettent, dans une symbiose tout à fait passionnante, aux plantes de fabriquer les acides aminés qui sont nécessaires à leur croissance. Alors, pour certaines, c'est même une symbiose très intime. Les légumineuses, comme les fèves, les haricots, ont des microbes dans leurs racines, dans des espèces de tumeurs qui se développent dans leurs racines. Et ces bactéries sont une partie intrinsèque de la vie de la plante. Si on les élimine, la plante végète, si on peut dire, et en fait ne produit pas ce qu'elle pourrait produire dans des conditions où elle est exposée à des microbes. Donc toute cette rhizosphère des plantes dans le sol, elle équivaut à notre microbiote, à nous, en particulier dans nos intestins, puisqu'on a 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin, ce qui est absolument phénoménal.
D'ailleurs, la microbiote intestinale est la plus riche chez l'homme.
Ah oui, de loin, oui, absolument. Les autres microbiotes sont beaucoup plus, à la fois en nombre de bactéries, on dit qu'on a à peu près 1 kilo de bactéries, tout le monde en rajoute un petit peu aussi dans les chiffres, probablement c'est aux alentours de 800 grammes, ça dépend si on prend de poids sec, de poids humide, bon, enfin bref, mais il y en a quand même. Hein. Métaboliquement, c'est l'équivalent d'un organe comme le foie, hein. Donc c'est pas neutre dans notre physiologie. Et il est certain que les autres microbiotes, microbiote vaginal par exemple, est un microbiote où il y a beaucoup de micro-organismes, mais c'est très restreint, c'est très limité, un certain nombre d'espèces bactériennes comme les lactobacilles par exemple. Le microbiote de la peau aussi est très diversifié, mais pas autant que le microbiote intestinal. C'est vrai que le microbiote intestinal est sans doute un des plus fascinants, ce qui veut dire que sur le plan de la physiologie, les autres n'aient pas d'intérêt.
Et vous nous avez décrit, hein, cette histoire du XXe siècle comme une lutte contre les microbes pathogènes, ceux qui apportent les maladies infectieuses. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans un nouveau rapport aux microbes, s'intéresser finalement à tous les autres, et devant un champ de recherche immense qui commence tout juste ?
Je suis tout à fait sur cette ligne de pensée et de réflexion. Je ne suis pas le seul. Oui, je pense qu'il faut qu'on revoie un petit peu notre concept de notre relation avec les microbes. Il faut sortir du concept un micropathogène, un autre, qui était un petit peu le concept initial de Robert Koch et de Cole Pasteurienne, de la même façon, qui avait sa légitimité, hein, bien entendu, et qu'il a encore, parce qu'il y a encore des micro-organismes pathogènes, et il faut évidemment faire ce qu'il faut pour s'en débarrasser quand on est infecté. Mais la vision maintenant s'élargit au fait que le pathogène n'est qu'un acteur, au fond, dans un groupe de micro-organismes, de microbes beaucoup plus larges, dont certains autres sont pathogènes aussi, dont certains sont des commensaux, sont impliqués éventuellement dans des éléments, on peut en reparler, positifs pour notre physiologie. Et puis entre les deux, il y a une zone grise, il y a ce qu'on appelle des pathobiotes ou des pathobiontes maintenant, qui sont des microbes qui ont sûrement un rôle important à jouer dans les écosystèmes, y compris en positif, parce qu'ils mettent éventuellement, par exemple, de la pression sur le système immunitaire, ou ils apportent quelque chose dans certaines régulations. Mais si le microbiote s'appauvrit, ils vont prendre de l'espace et ils vont devenir véritablement des pathogènes. Et on a ça en ligne de mire, je dirais, dans un certain nombre de pathologies maintenant, comme le cancer du côlon ou comme les maladies inflammatoires de l'intestin, où il semble que la physiopathologie de ces maladies soit liée en partie, en tout cas, à la fois une réduction de la diversité du microbiote et puis à une expansion d'un certain nombre de ces microbes, dont certains d'ailleurs sont curieux parce qu'ils viennent de la bouche. C'est une espèce de délocalisation, de décompartimentalisation. Au fond, nos microbiotes, c'est pas un sac global de microbes, c'est une espèce de mosaïque d'écosystèmes. Même sur la peau, par exemple, on n'a pas le même microbiote en peau sèche, en peau humide, en peau grasse. C'est absolument fascinant.
Alors, vous parliez de cette diversité des microbiotes, c'est vrai à l'échelle des individus, et puis à l'échelle plus générale de la planète, il y a visiblement, si j'ai bien compris en vous lisant, un appauvrissement de ce monde des microbes. Comment est-ce qu'on le constate et puis quelles en sont les causes ?
Alors, il y a sans doute une tendance à l'appauvrissement des microbes. Alors, on peut le voir effectivement à l'échelle individuelle. Des études, il y a un très joli papier qui est paru dans Nature en 2012 qui montrait, qui au fond comparait le microbiote intestinal de sujets à tout âge, mais enfin, fixons-nous peut-être sur l'enfant, je vous dirai pourquoi, entre l'Amérique du Nord, des populations amérindiennes d'Amazonie et le Malawi. Et c'était très intéressant de voir que, par les techniques qu'on appelle de métataxonomique, enfin l'analyse des gènes codant pour l'ARN 16S qui permet de classer au fond les bactéries qu'on observe dans des taxas, c'est le diagnostic moléculaire. Si on mettait la barre à peu près à 1500 ou espèces chez les Amérindiens, des populations d'Amazonie, on était chez l'enfant à 800 aux États-Unis. Donc,
presque du simple au double.
Presque du simple au double. Donc un coup de projecteur sur un problème, qui est une réduction de la biodiversité. Alors à quoi elle peut être due, cette réduction de la biodiversité microbienne, en tout cas chez l'homme, puisque c'est surtout là qu'elle peut être observée à l'heure actuelle ? C'est ce qu'on appelle la théorie ou l'hypothèse hygiéniste, c'est-à-dire que depuis le début du XXe siècle, on est rentré dans un cycle effectivement d'assaut contre les microbes en conjuguant l'hygiène, les antibiotiques, les vaccins, et qu'au fond, nos populations microbiennes souffrent quelque part de cette situation. Alors, c'est toujours pareil dans l'évaluation bénéfice-risque. Il est évident que on ne va pas remettre en cause
tout ça. Nous sommes en plein dedans, les vaccins,
voilà.
Se laver les mains. Et
bon, donc ça, c'est un acquis sur lequel il va être difficile de revenir. Mais inversement, peut-être on n'avait pas réalisé le coût éventuel dans les altérations de l'écosystème microbien, avec aussi des aberrations. L'utilisation excessive des antibiotiques, on la voit toujours dans l'idée de l'antibiorésistance, de l'extension de l'antibiorésistance. C'est une dimension colossale qui, bien sûr, faut prendre en compte. Mais aussi la réduction des écosystèmes microbiens au-delà des pathogènes, si vous voulez, qui risquent de poser problème. Alors, pourquoi est-ce que la réduction de la biodiversité microbienne chez un hôte humain, par exemple, peut poser problème? Ben parce que, justement, ces microbes jouent un rôle dans nos fonctions biologiques. Ils jouent un rôle en nous fournissant, par exemple, des sources de calories, ce qu'on appelle des acides gras à chaîne légère, en digérant pour nous les sucres complexes. Par exemple, quand vous mangez des légumes, quand vous mangez de la salade, c'est les microbes qui dégradent les éléments sucres complexes de la salade et qui vont les tronçonner et ensuite les fermenter pour donner ces acides gras à chaîne courte qui sont importants pour la nutrition, en particulier locale au niveau intestinal. Mais ces microbes, ils sont aussi importants pour régler le niveau de fonctionnement de notre système immunitaire. Il y a des tas de fonctions. Par exemple, même les souris, on parlait tout à l'heure de ces animaux sans germes, les souris qui naissent sans germes, de mère sans germes, ont des comportements à la naissance anormaux. C'est-à-dire, ce sont des petites souris hyperactives qui réexplorent leur cage en permanence, qui n'ont pas peur, qui vont aller au bout d'une planche et tomber, alors qu'une petite souris née d'une maman ayant des microbes et leur ayant transmis des microbes vont avoir un comportement plus normal, disons. Alors, on va bien se garder de faire des parallèles trop rapides, mais on voit bien que ces microbes vont avoir des fonctions qui sont connues et évidentes sur certains aspects métaboliques, mais peuvent même avoir des rôles importants dans, par exemple, les étapes tardives postnatales de maturation du système nerveux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger, qui, encore une fois, ne sont pas des problématiques de « je vis ou je ne vis pas sans microbes », mais c'est des problématiques d'optimisation de la vie grâce à cette symbiose qui s'est établie depuis des millénaires avec les microbes. Et c'est ça qui est passionnant.
Alors, comment pourrions-nous préserver ces microbes ?
C'est tout le débat. Je pense qu'il y a un aspect individuel et un aspect collectif. Alors j'ai commencé à en parler tout à l'heure, l'usage excessif des antibiotiques, au-delà des problématiques de maladies humaines ou vétérinaires, l'utilisation systématique dans certaines régions du monde, et il n'y a pas très longtemps chez nous, d'antibiotiques dans l'élevage, par exemple, pas du tout parce que les animaux sont malades, mais parce qu'on avait observé que lorsqu'on leur donnait des petites doses d'antibiotiques, ils grandissaient, ils grossissaient plus vite et ils faisaient plus de viande, par exemple, pour les animaux d'élevage pour l'abattage. Pisciculture, dramatique. Dans certaines régions du monde, on verse des tonnes d'antibiotiques chaque année pour permettre l'élevage extensif des saumons et des truites arc-en-ciel, par exemple. Ça a été banni de l'Union européenne, grâce en particulier aux pays scandinaves, les pays du Nord, la Norvège en particulier, très tôt, au début des années 2000, mais certains pays de la planète utilisent encore. Donc la planète, sans parler des usines de production des antibiotiques qui rejettent éventuellement dans les eaux, la planète est en train tout doucement de s'imprégner d'antibiotiques. Alors encore une fois, ça a ce rôle de base de maintien de l'antibiorésistance et de son extension. Et puis ça aussi, le risque à terme d'une altération des écosystèmes microbiens et de leur appauvrissement. Et ça, c'est un petit peu un appel à des études écologiques. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la biodiversité, effectivement, macroscopique, si je puis dire. Je pense qu'il faut s'intéresser à la biodiversité microscopique. Tara Océan fait un travail formidable là-dessus, au niveau océanique, bien entendu, en particulier dans les zones partie mésopélagique, c'est-à-dire en haut et un petit peu en dessous de la surface de la mer, avec une perspective, bien entendu, de comment ces écosystèmes évoluent avec le réchauffement climatique et autres. Je pense qu'il faut, un Tara terrestre assez rapidement et commencer véritablement. D'ailleurs, les microbiologistes de l'environnement ont été les précurseurs. Beaucoup des études, des techniques qu'on utilise actuellement pour étudier ce qu'on appelle la métagénomique ou métataxonomique, c'est-à-dire de façon large, les microbiotes humains ou animaux, elles sont nées de techniques mises en place par les microbiologistes de l'environnement. Donc je pense qu'il faut vraiment surveiller notre environnement. Comment remédier à ça ? Encore une fois, éviter les abus, peut-être ne pas tomber non plus dans l'excès de l'hygiène. On en a parlé, en particulier pour les enfants. C'est vrai qu'on leur a un peu constitué au fil des années, dans les années 60, 70, 80, une espèce de bulle aseptique qui n'est probablement pas de bon aloi parce que leur système immunitaire qui a été finalement rodé au fil des millénaires dans l'évolution par un contact avec des populations microbiennes extrêmement riches, hein, sans même parler des pathogènes, se retrouve d'un seul coup en perte de repères et peut réagir de façon un petit peu excessive lorsqu'il est stimulé. C'est toute la problématique de la montée en puissance de l'allergie, par exemple, de l'atopie. Et on voit bien sur la carte de l'allergie que les pays du Nord, qui ont les pays qui ont été le plus loin dans cet hygiénisme, sont un petit peu en haut de l'échelle par rapport au développement de l'allergie. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, et je dis tout de suite, toujours, ça va être dur de ménager quelque chose qui est un peu un paradoxe, qui est de garder les antibiotiques, de ne pas les perdre, parce que ça, c'est un risque actif. Majeur, actif, du fait de l'extension de la résistance aux antibiotiques, et puis en même temps de préserver les microbes. Je pense que c'est le challenge qui nous attend, c'est le défi qui nous attend dans les années qui viennent. Encore une fois, quand on va avoir réalisé les effets finalement relativement pervers de l'appauvrissement de la biodiversité microbienne.
Eh bien, grand merci Philippe Sansonetti, vous nous laissez sur ce défi qui nous invite à repenser et la médecine et l'écologie. Je rappelle le titre de votre leçon de clôture, « Tu aimeras tes microbes comme toi-même ». Vous pouvez trouver le texte aux éditions du Collège de France. À bientôt.
Merci.
Thank you.